Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Marc Lévy.
Je crois que ce qui rend heureux, c'est de se retrouver émotionnellement impliqué dans quelque chose qui, non pas vous sort de votre quotidien, mais qui vous apporte des petits moments de lumière.
On ne présente plus celui qui est sans doute l'un des romanciers français les plus populaires de ces 20 dernières années. Marc Lévy, pourtant, est un homme réservé qui s'enflamme dès qu'on parle de sa passion pour les livres. Ghost in Love, son 20e roman publié chez Robert Laffont, raconte l'histoire d'un pianiste classique dont le père, récemment décédé, revient dans sa vie sous la forme d'un spectre plutôt facétieux. S'il réside à New York depuis plusieurs années, Marc retrouve régulièrement la France pour partager quelques moments avec ses proches et bien sûr ses lecteurs. C'est dans l'hôtel parisien où il a pris ses quartiers, à deux pas de l'Élysée, que je suis allé le retrouver pour parler de ce nouveau page-turner savoureux et de plein d'autres choses encore. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci, vous-même ?
Bah oui, alors on se retrouve pendant votre pause estivale parisienne. Expliquez-moi, parce que vous êtes plutôt new-yorkais d'adoption. Là, vous êtes en France. C'est l'été, c'est la France toujours ?
C'est un moment propice pour être en France et puis pour renouer avec les musées, les expos. Juillet et août à Paris sont des mois où il y a un peu moins de monde et donc c'est assez agréable d'être là en villégiature.
Vous allez aussi à la rencontre des lecteurs, je crois, non ?
Oui, je fais toujours une... Avec la sortie d'un livre, il y a toujours une période de tournée en librairie. Je trouve ça très important. D'abord, c'est très joyeux d'aller à la rencontre des lecteurs. C'est un moment magnifique et privilégié qui, moi, m'apporte énormément. Et puis, en même temps, je trouve ça très important de participer activement à la vie de la librairie, parce que un auteur doit énormément à un libraire. Sans libraire, il n'y a pas d'auteur. Et j'ai toujours imaginé. L'idée que mes enfants n'aient pas la moindre idée de ce qu'est un disquaire, alors que moi, les disquaires ont fait vraiment partie de mon adolescence. Aller chez un disquaire, c'était un moment extrêmement joyeux où on achetait des disques, mais on échangeait avec un disquaire, on découvrait de nouveaux disques, on ouvrait notre horizon musical grâce au conseil d'un disquaire. Les disquaires ont disparu. Et je pense que si dans la musique, un certain nombre de chanteurs avaient soutenu le réseau de disquaires en y allant, en faisant des lancements de disques, à l'époque, c'était pas à la mode, mais des petits concerts acoustiques, le réseau de disquaires aurait peut-être tenu le coup. Je trouve ça très important de rendre de ce qu'on reçoit et d'aller en librairie faire des signatures et en même temps d'avoir la chance d'être accueilli par des libraires qui vous ouvrent leurs portes et qui vous permettent à vous auteurs de rencontrer les lecteurs.
Les libraires, ils sont un petit peu des résistants face à l'univers numérique qui dévore pas seulement les livres, hein, mais la fiction, les histoires. Les gens lisent des séries, les gens lisent, lapsus révélateur, gens regardent des séries, ils passent leur temps sur leur téléphone portable. Les libraires et les lecteurs sont des résistants, ou c'est un mot un peu exagéré?
Non, je crois que le libraire, d'abord c'est un découvreur. Et puis le libraire joue un rôle sociétal qui est vraiment important parce que on en parlera sûrement dans le podcast, mais la lecture ça n'est pas seulement un divertissement. La lecture, c'est une façon d'ouvrir son horizon, d'ouvrir son esprit, de se sentir beaucoup moins seul dans la vie, parce que le rapport qu'on entretient avec les personnages de romans est un rapport qui nous renvoie sous bien des coutures à nous-mêmes, à nos propres questions, parfois à des tas d'émotions qu'on n'ose pas partager avec l'entourage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose qui est très particulière dans le rapport que nous entretenons tous avec un livre. Une musique, on prend plaisir à l'écouter au milieu d'une foule. Voire même, d'ailleurs, le fait d'être au milieu d'une foule apporte encore plus d'émotions.
Les grands concerts où on va pendant
exactement.
L'été.
Ouais. Le cinéma, c'est un plaisir qu'on partage volontiers avec les autres. D'ailleurs, que ce soit dans une salle de cinéma ou même chez soi, on prend plaisir, parfois plus de plaisir à regarder un film à plusieurs que de le regarder tout seul. Mais le livre, quand on le lit. Si même quelqu'un de très proche de vous se penche au-dessus de votre épaule pour lire en même temps que vous, ça vous agace.
Ouais, c'est parasite.
C'est parasite. Et ce qui, moi, m'a toujours laissé penser qu'on entretient un rapport très exclusif avec un livre et qui est probablement dû à cette relation complice et finalement peut-être même parfois plus personnelle qu'on ne veut se l'avouer, que l'on entretient avec les personnages de romans. Et celui ou celle qui nous fait découvrir ces personnages de romans avant l'auteur, eh bien, c'est le libraire. C'est le libraire qui nous, qui en fonction de nos goûts, nous renseigne, nous conseille, mais en même temps, nous fait un petit peu sortir des chemins pour nous montrer des chemins de traverse et pour pas qu'on s'enferme dans un genre. Donc, la librairie joue un rôle qui ne se limite pas du tout au fait de vendre des livres. Ça joue le libraire a un rôle sociétal et culturel qui est extrêmement important et qui est important pour les enfants, pour les jeunes, qui est important pour les moins jeunes. Et c'est la librairie, c'est un lieu de rencontre, je trouve, très précieux, très important à préserver. Et donc, je crois que le libraire, pour moi, est beaucoup plus qu'un résistant. C'est quelqu'un qui ouvre des chemins de culture et de partage.
Dans un épisode précédent, j'étais dans une librairie parisienne avec un jeune libraire qui a repris une librairie, sa première librairie. Il a une trentaine d'années et il m'expliquait que le libraire il a un rôle presque un peu de psychologue parce qu'il a besoin de sentir l'humeur, l'état d'esprit de son client. Pour lui conseiller un bon livre et un livre qui est adapté à son humeur du moment.
Mais vous prêchez un convaincu. Je pense que, enfin, je vous en parlais d'ailleurs avant, c'est-à-dire que le libraire a un rôle, quand je vous disais sociétal, il y a un rapport humain qui est extrêmement important entre le libraire et le lecteur. Moi, avant d'être romancier, écrivain, je suis lecteur. Oui. Et je me souviens, à l'époque où je vivais à Londres, je passais tous les jours voir mon libraire. Et mon libraire, c'est un couple, qui d'ailleurs, sont devenus des amis. Mais c'était un moment de ma journée qui comptait énormément. Et bien sûr, le libraire, il a cette compétence et ce talent extraordinaire qui est de comprendre le livre qui va vous plaire au moment où vous le sollicitez. Parce que, en fonction effectivement des moments de notre vie, de notre humeur, de nos centres d'intérêt, on n'est pas figé. Vous voyez, dans un type de lecture ou marié à un seul auteur.
Beaucoup moins qu'on pourrait le croire, en fait.
Beaucoup moins qu'on pourrait le croire. Mais c'est toute la science, l'intelligence et n'ayons pas peur du mot, l'amour du libraire pour les livres et pour les lecteurs et pour la lecture. De dire, tiens, lui, il a besoin de lire ce livre-là en ce moment ou tiens, elle a envie de ce livre-là en ce moment et de nous guider.
Alors le podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux » et c'est le passage obligé pour tous les invités. Vous devez me dire si vous êtes d'accord, Marc Lévy, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ?
C'est piégeux, comme dirait l'autre comme question, parce que bien sûr que étant lecteur féru et passionné et écrivain, j'ai toutes les raisons de vous dire oui, bien entendu. Mais je ne sais pas si j'aurais la présomption de présager du bonheur des autres. Je peux croire que les gens qui nourrissent et cultivent leurs émotions dans la musique ou dans le cinéma ou dans la sculpture, je crois que ce qui rend heureux, c'est de se retrouver émotionnellement impliqué dans quelque chose qui... non pas vous sort de votre quotidien, mais qui, comment vous dire, qui vous apporte des petits moments de lumière. Donc pas la grande lumière prétentieuse, mais des petits moments de lumière. Parfois c'est une chanson, voyez, parfois c'est un tableau, parfois c'est un film. Et je crois que ce qu'on appelle de façon parfois peut-être même effrayante la culture, et qui peut sembler inaccessible, en fait c'est cet océan de création, visuel, avec des images, avec des mots, avec des notes, avec des formes, bref, qui vous emmène dans des mondes imaginaires.
Ghost in Love, c'est un roman qui rend heureux. Enfin, en tout cas, moi, il m'a rendu très heureux, mis de bonne humeur, parce que c'est un roman à la fois léger et grave, très, très, très rythmé, pétillant, avec beaucoup d'humour, et en même temps, il y a un parti pris fantastique qu'on accepte tout de suite et qui rend justement la lecture encore plus délicieuse. C'était votre but, non ? C'était de faire un roman enlevé qui fait sourire et réfléchir en même temps ?
Oui. Enfin, c'était mon but. C'était un espoir. C'était l'espoir que je nourrissais. Je trouve qu'il y a quelque chose de très doux à ne pas avoir peur d'aborder les choses graves de la vie, mais sans nécessairement les aborder par le prisme de la gravité. Je suis très féru de ce qu'on a, enfin, du second degré, de l'humour anglais, et je trouve qu'il y a des choses qui nous touchent. En fait, je crois que le vrai fantôme de ce roman, c'est la pudeur.
Oui.
Et cette pudeur, elle est finalement très présente dans nos vies, beaucoup plus présente qu'on ne veut le voir. Et c'est elle s'exprime sous plein de formes. Il y a une pudeur physique pour certains, il y a une pudeur comportementale pour d'autres, et puis il y a une pudeur que je trouve à la fois belle, poétique et déroutante, c'est la pudeur des sentiments. Cette pudeur qui fait que on a du mal très souvent à dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. La pudeur qu'on a, par exemple, avec nos parents, à aborder de vrais sujets. Je voyais hier, je suis tombé sur Arte, sur une émission où des femmes qui avaient 18 ans et 20 ans dans les années 70 parlaient de leur combat dit féministe, et elles expliquaient ô combien à l'époque le mot féministe était un mot que, mal vu, mal considéré, mais elles parlaient de la façon dont elles s'étaient battues pour le droit à l'avortement, pour le droit à disposer de leur corps. Et il y a une réflexion qui m'a beaucoup touché. Il y a une des femmes qu'on interroge sur ce qu'elle a pu transmettre de ce combat à ses enfants. Et elle répond, elle dit, mais ça n'intéressait pas nos filles qu'on leur parle de ça. Elles n'avaient pas envie qu'on leur en parle parce que, d'abord, ça touchait au domaine de l'intime en ce qui nous concernait. Ça touchait à une certaine forme de pudeur. Et bref, trois petits points. Très souvent, on côtoie les gens qu'on aime le plus au monde. Et il y a une forme de pudeur à aborder avec eux ou avec elles les choses qui comptent et qui vont laisser l'empreinte de nos vies et de leur vie. Et donc dans ce roman, j'ai eu envie de parler de ça. C'est un roman où, sur le ton de la comédie, parce que je n'avais pas du tout envie de le faire sur le ton de la gravité, mais au contraire, d'aborder tous ces thèmes avec une forme d'humour et de décalage qui fait qu'on peut être touché tout en riant. C'est très, je ne fais pas de comparaison, c'est, bien sûr, il n'y voyait aucune prétention là-dedans, mais c'est très chaplinien, vous voyez, dans cette démarche. Et voilà, donc c'est l'histoire de ce pianiste concertiste qui s'appelle Thomas et qui, le jour anniversaire de la mort de son père, qui est parti depuis 5 ans, voit réapparaître le fantôme de son père, mais qui est très vivant.
Assez facétieux même. Hein.
Très facétieux, ouais. Qui prend beaucoup de place et qui non seulement réapparaît et qui va foutre une pagaille terrible dans sa vie, mais qui en plus a un service très important à lui demander. Et les deux vont, pour rendre ce service à son père, il va partir en voyage avec lui, et voyager avec un fantôme n'est pas la chose la plus facile sans passer pour info auprès des gens qui sont autour de vous, mais ils vont partir à San Francisco et avec des tas de choses à faire et des choses pas simples, mais en même temps qui vont donner naissance à des conversations qui, sur un ton décalé, pour moi, ont quelque chose de joyeux et de délicieux, mais en même temps qui n'ont pas peur d'aborder la fibre du sentiment.
La relation père-fils, ce qui est étonnant, c'est que dans le livre, elle est assez ouverte pour qu'on s'y reconnaisse tous, même si on n'a pas tous forcément perdu notre père, même si on n'a pas forcément encore moins revu notre père sous forme de fantôme. On s'imagine très bien à la place de Thomas, et on retrouve effectivement, moi, à titre personnel, la pudeur que je peux avoir à discuter des sentiments avec son père. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre aux hommes, ou est-ce que c'est encore plus fort entre un père et son fils, cette difficulté, ça a abordé les sentiments?
Alors, quand j'ai écrit ce roman, il est vrai que j'avais très envie de parler du rapport que l'on entretient avec nos pères. Que je crois honnêtement que Thomas aurait pu être une... Enfin, Thomas aurait pu être un personnage féminin, ça n'aurait pas changé grand-chose. L'originalité dans le rapport filial ne vient pas du fait que ça soit un garçon plutôt qu'une fille. Bon, il fallait qu'il soit l'un ou l'autre, et là j'ai choisi qu'il soit un garçon. Mais je crois qu'il y a... Il y a un rapport charnel qu'on entretient avec nos mères qui fait que nos mères, que ce soit dans la relation mère-fils ou mère-fille, sont beaucoup plus facilement... Enfin, bien sûr, il y a des tas d'exceptions à la règle que je suis en train de décrire, qui d'ailleurs n'est pas une règle. Mais je crois que nos mères sont beaucoup plus facilement nos confidentes. Et il y a cette pudeur masculine, cette pudeur de nos pères, qui fait que... c'est plus compliqué. Et pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? Ça, le roman en parle beaucoup. Mais moi, j'ai un souvenir, par exemple, et c'est marrant parce que quand j'ai parlé de ça, j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit « mais c'est tellement la même chose avec moi ». Par exemple, mon père, on était très proches, donc j'appelais mon père et il décrochait et il me disait « oh, qu'est-ce que je suis content de t'entendre, tu me manques, tu peux pas savoir ce que tu me manques, je pensais à toi, ne quitte pas, je te passe ta mère ».
Ouais, ça s'arrêtait là, en fait.
Et c'était... Voilà, et vous voyez, et tout était dit. Et il n'y avait pas... Et 100 fois, je me suis dit, mais non, la prochaine fois que je le chope au téléphone, je vais dire, papa, arrête, comment ça va ? Mais il y avait
Parle-moi, raconte-moi des choses.
Et si je lui disais comment ça... Ça va très bien, ouais. Je te passe ta mère. Et alors, le livre parle beaucoup de ça. Et c'est vrai que, vous voyez, quand on parle d'écrire sur des sujets, entre guillemets... alors le grave n'est pas toujours le mot, mais sur des sujets un peu profonds, mais avec une forme de légèreté. Mais voilà, moi j'ai reçu un certain nombre de courriers de lecteurs au moment juste après la publication du livre et qui me disaient, ça m'a quand même donné vachement envie de pousser la porte. Et moi, mon père est là justement et je vais peut-être en profiter beaucoup plus et je vais un tout petit peu frapper plus fort à la porte pour qu'on parle.
Et vous, en tant que père, alors, vous êtes comment ? Vous êtes facile ? Vous vous ouvrez facilement sur les sentiments ? Vous êtes un confident ou pas ?
Oui, moi je le ferais volontiers, mais c'est mes enfants qui sont horriblement pudiques avec moi.
Ça ne les intéresse pas ou...
Non, je m'en rends compte. Alors, avec l'aîné, c'est plus facile parce que j'ai forcé... l'aîné, il a 30 ans. Et donc, bon, on s'est calé comme ça des déjeuners quasi hebdomadaires. Et on a créé... Parce que c'est un... Au début, c'est presque un exercice. Oui. Après, ça devient un rituel. C'est-à-dire qu'une fois que la complicité s'est installée et que le muscle se détend et le muscle de la parole se détend et qu'on apprend finalement à s'apprivoiser l'un l'autre et à l'un des thèmes du roman, parce que c'est un des thèmes de la vie. En fait, d'ailleurs, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas de parler des choses graves, c'est de parler des choses de la vie qui nous touchent, mais avec une forme de légèreté qui les rend joyeuses et heureuses au lieu de les rendre tristes. Mais il y a un moment qui est... il y a un certain nombre d'étapes qu'on est tous obligés de franchir de façon plus ou moins consciente dans la vie. Il y a pendant toute une période de notre vie, on est l'enfant de nos parents. Et puis, il y a un moment où on devient adulte. Et voilà. Alors, on est un peu moins les enfants de nos parents, même si ça reste nos parents. Et puis, il y a un moment où on devient les parents de nos enfants. Oui. Et là, comment vous dire, il faut savoir, vous voyez, dans un déjeuner de famille, il faut savoir passer de l'un à l'autre. Oui. Moi, sur le ton de l'humour, mais quand j'étais enfant, ma mère avait une obsession, c'était qu'on ait froid. Alors, on était tout le temps sur couvert. Vous voyez, il fallait toujours qu'on ait un pull. J'avais cette blague avec ma sœur où je lui disais, tiens, aujourd'hui, j'ai eu un... tu sais ce que c'est que ce pull ? C'est le pullover que je mets quand maman a froid. Bref. Et puis, il y a quelques années, comme ça, on est dans un déjeuner de famille et j'ai mon fils à côté. Et il y a une petite brise. Et je dis à mon fils, mets un pull, il fait froid. Et ma mère me regarde et me dit, laisse-le tranquille.
C'est assez ironique. Hein,
là, je me suis dit, mais c'est le monde alors. Mais ça,
je suis devenu ma mère.
Oui, c'est ça, exactement. mais ça aussi, ça fait partie. J'ai entendu tellement d'amis autour de moi me dire, je ne veux pas reproduire ça de mon père. Et puis finalement, on le reproduit. Et le livre parle énormément de ça. Dans cette conversation tendre et folle et drôle qui s'établit entre Thomas et son père dans le roman, ils abordent tous ces thèmes-là. Vous voyez, le thème de la pomme qui cherche à s'éloigner le plus de l'arbre, mais qui tombe quand même pas si loin que ça.
Parlez-moi un peu de votre vie de lecteur, Marc. Alors, vous avez plusieurs vies professionnelles, on va dire. Vous avez été chef d'entreprise avant d'être écrivain à plein temps. Mais encore avant, vous avez été un lecteur. Vous avez lu des livres qui vous ont forcément donné envie un jour de passer à l'acte. Quelle place ils avaient, les livres, dans votre enfance, dans votre jeunesse? Est-ce qu'il y avait des livres partout à la maison?
Oui, d'autant plus que quand j'étais enfant, Internet n'existait pas, le streaming non plus, les tablettes non plus, le cinéma coûtait relativement cher, et puis on n'allait pas au cinéma, et les programmes de télévision, il y avait trois chaînes de télé, donc, et puis on ne regardait pas la télé, la télé était considérée comme quelque chose de néfaste pour l'enfant. Donc la lecture était le divertissement par excellence. Et puis, c'était une époque où on lisait beaucoup plus parce que la lecture intervient... En fait, il y a un appétit de lecture quand on est déconnecté. Finalement, la lecture, on emportait un livre quand on allait chez le médecin pour attendre, parce qu'on allait attendre dans la salle d'attente. On emportait un livre dans les transports parce qu'on allait passer un temps fou. En fait, le livre était le compagnon de l'ennui. Dès qu'on redoutait un moment justement où on aurait rien à faire, hop, on prenait un livre et ce livre devenait le compagnon. Aujourd'hui, malheureusement, on est connecté tout le temps.
Ah oui.
Et là où dans une rame de train on voyait 25 personnes lire, aujourd'hui tout le monde a son portable. Mais c'est même vrai d'ailleurs, l'image du jeune homme ou moins jeune, ou de la jeune femme ou moins jeune qui marchait dans la rue la tête plongée sur un livre a été quand même énormément remplacée par celui ou celle qui a la tête plongée sur l'écran de son smartphone.
Et c'était beaucoup plus romantique.
Bon, écoutez, c'était différent en tout cas. Donc, mais pour répondre à votre question, oui, je lisais énormément. Et je lisais beaucoup parce que j'adorais ça d'abord. Et puis parce que j'ai eu la chance de découvrir très jeune. D'abord, j'ai eu la chance que mes parents ne m'obligent pas à lire certains livres.
Ouais, c'est important ça.
Et c'était très important parce que je crois que ce qui a causé... Vous voyez, dans les petites choses dont on est content dans son métier. Oui. Moi, je n'ai jamais cultivé l'ego, l'orgueil, tout ça. Ça m'est complètement égal. Je crois que la vie est beaucoup trop courte pour s'embêter avec ce genre de choses et pour perdre son temps avec ça. Mais bon, quand on fait un métier, qu'on le fait avec passion, il y a des choses qui vous font plaisir. Et moi, une des choses qui m'a fait vraiment plaisir dans ma carrière d'écrivain, c'est le nombre de gens qui m'ont écrit en me disant que tel ou tel livre les avait réconciliés avec la lecture. Et je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire réconcilier la lecture? Et donc, dans les salons du livre, dans les rencontres en librairie, il m'est arrivé de discuter avec ça, de ce sujet avec des lecteurs. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a un nombre incroyable de lecteurs qui ont été, dès l'adolescence, dégoûtés de la lecture parce que confrontés par obligation à des lectures qui étaient trop difficiles d'accès.
En gros, c'est le programme de l'éducation nationale qui vous oblige à lire des livres ou des histoires dans des styles ou des histoires qui ne vous correspondent pas au moment où
ils arrivent vers vous.
Hein.
Mais je dirais que de la même façon... Ce raisonnement est vrai pour toute forme d'expression. Si vous vous intéressez à la musique et qu'à 9 ans on vous fait écouter du Bartok, on a de grandes chances, vous voyez, de vous écarter. Ouais. Et ça ne remet en rien
la qualité de Bartok.
La qualité de Bartok. C'est simplement qu'il ne faut pas commencer par ça. Et donc, dans ce qui va faire d'un enfant un lecteur, il y a une vraie... responsabilité dans le choix de lecture qui vont lui faire, avant d'en faire entre guillemets un littéraire, il faut d'abord en faire un lecteur, et pour en faire un lecteur il faut qu'on crée ce lien où il y a une addiction à la lecture. Et d'ailleurs je trouve que c'est une réflexion qui est passionnante parce que on voit bien avec quelle facilité ceux qui ont inventé les tablettes et les smartphones ont su créer cette addiction. Bon. Et je trouve que dans la chaîne du livre, dans les métiers du livre, mais il faut se battre à armes égales. Alors moi, j'ai eu la chance, bien avant que les tablettes n'existent, que mon père soit un homme de lettres, Et son envie, c'était que j'aime les livres. Voyez. Et donc, il ne m'a pas fait commencer à... les premiers livres qu'il m'a confiés n'étaient ni Proust, ni d'ailleurs Balzac.
C'était quoi, alors?
Ça a été, par exemple, du plus loin qu'il m'en souvienne, comme disait Barbara, par exemple, c'était Jules Verne.
Ouais.
Mais vous avez 8 ans et vous lisez De la Terre à la Lune... Je vous parle de ça en 1968, un an avant que le premier homme marche sur la Lune, et dans un contexte où marcher sur la Lune relevait de l'impossible, de l'extraordinaire. Et c'était une lecture absolument captivante. Donc je suis parti dans Jules Verne et j'ai lu toute l'œuvre de Jules Verne, mais je guettais le soir pour retrouver les aventures de Jules Verne, comme on pouvait guetter le soir pour retrouver les aventures de Tintin. Je me souviens par exemple d'une lecture d'enfance qui m'avait... emmené, c'était Barjavel, La Nuit des Temps.
Oui.
La Nuit des Temps, ça a été un livre pour ma génération, mais Barjavel, avec La Nuit des Temps, je pense, a initié des milliers d'enfants et de jeunes à la lecture et au plaisir de lire. Et une fois qu'on avait terminé La Nuit des Temps, on avait ressenti tellement d'émotions, tellement de plaisir, tellement de passion, qu'on avait envie tout à coup d'entrer dans une librairie et de dire au libraire ou à la libraire, monsieur, madame, qu'est-ce que je peux lire après?
Il me faut un truc pareil ou...
Voilà.
Ouais.
Donnez-moi. Et hop, on montait d'une marche, voyez. Et hop, on avançait sur ce chemin de lecture qui faisait qu'on avait deux. Et puis un jour, on arrive à Madame Bovary, vous voyez. Bon. Alors, dans les lectures dont je pourrais vous parler, moi, il y a un livre qui a été très... qui a conditionné beaucoup ma vie, c'est Les raisins de la colère.
Ouais.
Les raisins de la colère, Steinbeck. C'est avec Parole de Jacques Prévert, ce sont les deux livres qui éveillent ma conscience sociale. Et je vais faire une toute petite bretelle en passant par le cinéma, parce que mon père m'emmène voir à 14 ans Pain et chocolat,
ouais.
Nanni Moretti. Et il y a une scène dans Pain et chocolat qui est une scène... incroyablement d'actualité aujourd'hui, puisque Pain et chocolat raconte la vie d'un Italien immigré clandestin, d'un Italien immigré clandestin en Suisse, qui fuit son pays et la faim pour aller travailler de façon clandestine en Suisse en espérant pouvoir nourrir sa famille. Il va devenir un vrai clandestin. À un moment, pour faire une histoire longue, une histoire courte, il se retrouve à travailler dans un poulailler. Et un dimanche, dans ce poulailler où vivent tous les travailleurs clandestins, alors que c'est le déjeuner du dimanche et qu'on mange du poulet et que ses collègues se mettent à danser. Il voit qu'il se rend compte qu'il danse comme des poulets et voilà. Il a une prise de conscience de sa condition et il va se mettre à un grillage. Et de l'autre côté du grillage, arrivent quatre cavaliers à rien sur des montures blanches qui se dévêtissent et qui vont se baigner nus dans un lac. Et lui, il appuie tellement fort son visage pour... tellement il veut passer de l'autre côté du grillage que quand il recule, le grillage a imprimé son visage. Et on sort du cinéma avec mon père et on marche comme ça sur les Champs-Élysées. J'ai 14 ans et mon père me pose une question à l'angle de l'avenue Georges V et il me dit, et toi, plus tard dans la vie, de quel côté du grillage tu veux être?
Ah oui.
Et je sais que mon père est beaucoup trop sournois, malin et retors avec moi pour que la réponse soit binaire.
Oui.
Et j'ai cherché la réponse pendant 4 ans. Et le jour de mes 18 ans, je suis rentré à la Croix-Rouge, où j'ai passé 7 ans.
Ça explique beaucoup de choses.
Et je pense honnêtement, en y pensant, rétroactivement, que je ne serais jamais rentré à la Croix-Rouge si mon père ne m'avait pas emmené voir ce film, s'il ne m'avait pas posé cette question, et si le lendemain, il ne m'avait pas mis dans les mains Les raisins de la colère.
Ça change tout.
Ça change tout. Et là, on aborde une des deuxièmes fonctions du livre et de l'histoire dans la vie d'une femme, d'une jeune femme ou d'un homme ou d'un jeune homme, qui est comment la façon dont on s'approprie une histoire, comment la façon dont des personnages qui vous sont étrangers au départ deviennent si familiers, et comment la vie des autres vous touche dans votre propre vie, par appartenance, par projection, ou, et c'est encore plus magnifique, par compréhension, tout à coup, par ouverture de l'esprit, comment à ce moment-là un livre va influer sur le cours de votre vie et vous ouvrir des chemins. Et c'est pour ça que j'ai toujours cru que les chemins de la lecture sont des chemins de liberté. Donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, je n'aurais pas la présomption de vous dire que celui qui lit est plus heureux que les autres, mais j'ai, en tout cas je nourris la certitude que celui qui lit est plus libre que les autres.
Par la suite, avant de devenir écrivain, vous avez de nombreuses activités professionnelles différentes, vous avez fait plein de choses, Marc. Est-ce que vous lisiez tout le temps?
Oui.
Un peu, beaucoup? Est-ce que en même temps, cette vie était suffisamment remplie pour se passer des livres par moment?
Oui et non. C'est, bien sûr que quand vous bossez 12 heures par jour, vous avez moins de temps pour lire, parce que la fatigue est là. Mais je lisais toujours. J'avais ce besoin. Parfois, je lisais que... Vous voyez, j'ai des souvenirs. Je me souviens quand j'étais jeune papa et que je travaillais... Einstein avait cette phrase très drôle où il disait « je dors peu, mais je dors vite
ouais. ».
C'était une époque où j'avais intérêt à dormir vite. Mais au moment où je me couchais, pour éteindre le cerveau, il fallait que je lise. Vous voyez, éteindre la lumière, pour moi, ouais. Ça ne suffisait pas. Et donc, voilà, parfois une page, parfois un chapitre, ça dépendait du livre, du moment de fatigue. Mais j'avais besoin... De ce sas où je quittais le monde du réel, et j'en ai toujours besoin d'ailleurs, où je quitte le monde du réel et où j'entre dans un monde imaginaire, et hop, c'est ce monde imaginaire qui me permet d'aller vers la nuit, qui est un autre monde imaginaire.
Et après, vous passez à l'écriture, ça devient votre métier. Il y a vraiment, vous avez beaucoup raconté hein, vos débuts d'écrivain. Il y a vraiment un déclic, il y a vraiment un moment où vous dites que vous allez faire ça tout le reste de votre vie? Parce que le premier a du succès. S'il n'avait pas eu du succès, est-ce que vous auriez continué?
Je serais incapable de vous répondre en étant sûr de l'honnêteté de ma réponse. Vous voyez, c'est... j'en sais rien. Je crois que oui. Je crois que oui parce qu'en fait... vous voyez, on parlait de la pudeur tout à l'heure. Et moi, la pudeur a énormément conditionné ma vie. Le premier manuscrit que j'ai écrit, j'ai 17 ans. Je le fais lire à mon père, et mon père me dit deux choses. Il me dit, c'est pas bon, mais ce qui est formidable, c'est que tu as écrit 350 pages. Et comme j'ai 17 ans, la seule chose que j'entends, c'est ce n'est pas bon.
Mmh, bien sûr.
J'ai pas du tout entendu le « mais ce qui est vraiment bien ». Et du coup, vraiment terrifié de pudeur, vous voyez, pour pas dire presque humilié, je me dis, c'est pas pour moi, je réécrirai pas. Et donc, j'ai oublié qu'à 17 ans, j'avais écrit un manuscrit de 350 pages qui, aussi mauvais
faisait 350 pages.
Faisait 350 ouais, ouais. pages. Ça voulait dire que j'avais oublié le... Et j'avais oublié une chose très importante, c'est le bonheur que j'avais pris à l'écrire. Et qui est beaucoup plus important que tout le reste. Le bonheur que j'avais pris à l'écrire. Bon. Et puis, j'ai déjà raconté, pardon pour ceux qui ont déjà entendu l'anecdote, mais un petit garçon grandit, je lui raconte des histoires, j'ai la bonne mauvaise idée de commencer à inventer une histoire épisode, donc je me fais souvent reprendre parce que l'épisode du lendemain ne colle pas avec celui de la veille. Donc,
oui, c'est important. Hein.
Voilà, et donc dès qu'il s'endort, hop, je file dans mon bureau et j'écris la mémoire fraîche tout de suite l'épisode du lendemain. Et je fais ça... tous les soirs pratiquement pendant de 5 à 8 et demi à peu près. Puis bon, 8 et demi, un soir, il me dit « Tu sais papa, j'ai plus envie de regarder la télé. » Bon, alors évidemment, grande déception, mais il fallait se rendre à la réalité. La télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et là, je me rends compte que ce moment, cette heure et demie que je passais dans mon bureau à lui concocter le récit du lendemain, me manque énormément. Et donc, me vient l'idée puisque je ne peux plus écrire à l'enfant, Je vais écrire à l'adulte qui va devenir. Et à cette époque-là, je ne pense pas du tout à publier. Du tout, du tout. Je ne pense qu'à une seule chose, c'est à faire un espèce de pied de nez au temps. Je me dis, tiens, j'ai 38 ans, je vais écrire cette histoire, je la mettrai dans un tiroir, et quand il aura 38 ans, il la lira. Et pendant le temps d'une lecture, on aura le même âge. Et je serai le meilleur ami de mon fils. Et rien que ça me donne envie tous les soirs d'aller écrire.
C'est un pitch de roman, en fait.
Non, mais c'est bon. Et pourquoi je vous re-raconte ça, en fait? Parce que, pour répondre honnêtement à votre question, si c'était vrai, n'avait pas connu ce destin-là, je crois que j'aurais continué parce que Là, pendant l'écriture des six, c'était vrai. Un, je ne pensais pas du tout à la publication. Mais deux, j'étais absolument conscient du bonheur que j'avais à me mettre à ma table et à écrire en pensant à mon fils tous les soirs pendant une heure et demie. Et donc, je crois que même s'il n'avait pas été publié et qu'il était resté dans un tiroir...
Vous auriez continué.
J'aurais prolongé ce plaisir de lui écrire.
Et vous avez continué depuis, hein, vous publiez quasiment tous les ans. Est-ce que quand on écrit tous les ans, est-ce qu'on a toujours le temps de lire autant? Est-ce que vous lisez beaucoup?
Oui. Oui, oui.
Tous les jours?
Oui, oui. Je ne lis pas... Moi, j'ai deux périodes de lecture. La période pendant que j'écris et la période pendant que je n'écris pas. Pendant que je suis en écriture, je lis essentiellement des ouvrages qui viennent documenter mon travail. Et ça demande énormément de lecture. Pour écrire le premier jour et la première nuit, j'ai dû lire plus de 4000 pages de matière pour me former et m'éduquer au sujet que j'allais traiter dans mon roman. Alors, quand vous écrivez une comédie, la documentation est en général moins conséquente et moins importante. Mais par exemple, quand j'ai écrit l'Horizon à l'envers, je pense que j'ai dû lire peut-être bonne trentaine d'ouvrages centaines d'articles de publications médicales, scientifiques, informatiques sur le sujet dont je parlais. Donc il y a cette période d'écriture où je lis énormément pour...
Donc c'est pas vraiment du roman, hein. C'est plutôt c'est de la recherche.
C'est de la recherche. Document. Pour me mettre au niveau de mes personnages, en fait, de la même façon qu'un acteur doit se fondre dans la peau de son personnage, eh bien, quand on met en scène... quand j'écris le premier jour et la première nuit, je me retrouve confronté à un problème énorme, c'est que mon personnage principal est un astrophysicien. Moi, j'ai eu 4 ans physique au bac. Donc, je suis convaincu que je ne pourrais jamais dépasser la page 20. J'ai repris toute une éducation. J'ai eu la chance de rencontrer un vrai astrophysicien qui travaillait sur les hauts plateaux d'Atacama et qui a été d'une générosité pédagogique hallucinante à mon égard et d'une patience tout aussi hallucinante. Mais ça fait aussi, pour moi, si en 20 romans j'ai changé 12 fois de genre, c'est aussi parce qu'il y a ce côté de cette part de l'enfance qui ne s'est jamais éteinte, cette curiosité, et je m'ennuie. Si je devais tout le temps écrire, tout le temps écrire dans le même registre, je m'ennuierais parce que j'aurais pas cette espèce d'excitation de me dire tiens, je vais rentrer dans un nouvel univers. Quand je me souviens quand j'avais écrit La prochaine fois, qui est un roman qui se passe dans l'univers des galeristes, des ventes aux enchères de tableaux, mais surtout des incroyables techniciens de l'art qui restaurent les tableaux.
Ouais.
Bon. Je me souviens d'une rencontre qui a marqué ma vie et l'écriture de ce roman où j'avais été reçu par une dame qui s'appelle Sylvie Lefebvre et qui m'avait très généreusement accueilli au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, qui est un endroit incroyable et qui m'a éduqué, formé, et grâce à laquelle j'ai pu avoir accès à une littérature sur le sujet dont mon roman parlait. Et donc je me suis mis à lire des centaines de pages sur ce sujet, mais elle m'avait ouvert la porte avec sa pédagogie et sa patience, et elle m'avait permis d'entrer dans ce monde. Et j'ai passé une année dans ce monde, et je me suis autant régalé à entrer dans un univers dont j'ignorais tout avant, que j'ai pris de plaisir à écrire le roman. Donc il y a cette période-là, hors période... d'écriture.
Vous lisez les autres?
Je lis les autres et je suis très éclectique. De la même façon que je ne me suis jamais enfermé dans un genre dans l'écriture, je ne m'enferme jamais dans un genre dans la lecture.
Alors donnez-nous envie de lire certaines de vos découvertes récentes. Qu'est-ce qui vous a plu dernièrement?
Alors là, vous me piégez un petit peu parce que je sors tout juste
de l'écriture.
Ouais. Donc j'ai recommencé à lire les autres depuis très peu de temps.
Alors qu'est-ce qui vous fait envie sinon?
J'ai eu la chance de pouvoir lire avant la rentrée du 15 août le roman de Sophie Fontanelle, Nobel,
ouais,
qui est un petit bijou. Alors quand on parle des livres qui vous réconcilient avec la vie, qui vous donnent envie de vous lever le matin de bonne humeur, je n'aime pas comparer un auteur à un autre, mais il y a du Pagnol, c'est un livre solaire, c'est un livre qui est plein de... C'est magnifique. Le roman de Jérôme Attal, aussi, parce que j'aime son écriture et j'aime sa poésie, j'aime la délicatesse de ses récits. Donc ça fait partie vraiment de mes lectures. J'aurais très envie de lire le prochain roman de Karine Thuil parce que j'aime son j'aime ce que
on commence déjà à beaucoup en parler.
Donc j'aime son travail et j'aime son écriture, donc je suis impatient de lire ce livre dans un registre complètement différent. J'en parlais il n'y a pas très longtemps, j'ai pris un plaisir fou à lire le dernier roman de Maxime Chattam.
Oui.
J'ai tourné les pages avec avidité, j'ai eu peur.
Maxime Chattam dit le prince des ténèbres.
Exactement.
C'est sombre.
Mais qui est vraiment pour moi, de ce côté de l'Atlantique, le seul. Enfin, je les connais pas tous, donc pardon pour ceux que. Oui, mais en tout cas, qui est un auteur de la trempe de Stephen King.
En tout cas, c'est une de ses grandes influences. Et,
oui, c'est remarquablement fait et très très bien réussi. Donc si vous aimez, par exemple, moi j'aime bien de temps en temps, je ne lis pas ça tout le temps, mais une ou deux fois par an, j'adore.
On aime bien avoir peur.
J'adore me faire peur. Et donc, il y a évidemment Stephen King, on parlait des lectures qui ont marqué votre vie. Moi, le premier roman de Stephen King, je crois que je devais avoir 16 ans, et c'est un choc incroyable. C'est la première fois, en lisant un livre, que je découvre que des mots peuvent me faire peur à ce point-là. Et à l'époque, je suis devenu complètement accro à Stephen King. Et je me souviens, je guettais les traductions, parce que les traductions arrivaient au compte-gouttes. Aujourd'hui, elles sont quasi simultanées.
Il a une production toujours prodigieuse.
Oui,
hein,
à l'époque, quand il y en avait un par an, on était fous. Quand La Tour Sombre est arrivée, mais combien de fois par mois j'entrais chez mon libraire en lui disant « Alors, il y a un nouveau tome ?» Il me disait « Écoute, arrête, il sera en vitrine quand il arrivera. » Et j'allais en permanence. Voilà, le dernier roman de Maxime Chattam est formidable.
Vous lisez en anglais ?
Oui, ça m'arrive. J'aime, je
lis. Vous êtes à New York, vous lisez, vous parlez, pensez anglais ?
Non, pense français. Je lis 90% en français, mais quand j'ai envie de lire un livre qui n'a pas encore été traduit ou qui ne sera pas traduit, j'ai plaisir à lire en anglais. Alors, par exemple, il y a un auteur que j'aime mieux lire c'est Elroy.
Ouais.
Elroy, j'adore le lire en anglais.
Oui, Elroy, c'est une écriture très particulière.
Il y a une musique en anglais. C'est très difficile dans le processus de traduction, c'est de transposer la musique. Et elle est difficile, elle est d'autant plus difficile que parfois la transposition de cette musique des mots est très inhérente à la culture. Et quand je dis à la culture, je parle de la culture, au parfum de culture. Donc, par exemple, il y a un parfum de culture à Los Angeles qui est très difficile à transposer. Comme il est très difficile de transposer la culture. Vous voyez, par exemple, un roman qui se passera à Belleville et qu'on voudrait traduire en anglais. Je parle du Belleville de mon enfance où il y avait une musique, il y avait une façon de parler, il y avait un accent, le fameux accent parigot, et ça, au moment de traduire, c'est très compliqué. Alors, voilà, quand on a la chance de lire dans deux langues, quelles qu'elles soient, il y a certains auteurs.
C'est bien Marc Lévy en anglais ?
Écoutez, je suis très. Alors, je vais me la péter deux secondes, je suis super content parce que j'ai appris aujourd'hui que L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Qui en anglais, aux États-Unis a été publié sous le titre de Alice Pendlebury, a été sélectionné dans les 50 romans étrangers à lire par le New York Times.
Ça fait plaisir.
Ça m'a fait extrêmement plaisir, je ne vous le cache pas. Donc, je ne me relis pas moi-même, mais en tout cas, voilà, je suis très content.
On pourrait tenter de jeter un œil à la traduction.
Alors, vous savez, c'est drôle, je l'ai fait.
De relire le livre comme si c'était celui d'un autre.
Je l'ai. Alors, quand Et si c'était vrai est publié. Quelques mois après, je reçois le premier jet de la traduction anglaise du roman. Et donc, je me mets à ma table de travail et puis je commence à faire du mot à mot. Et donc, j'ai le manuscrit original à droite, la traduction anglaise, et puis je commence à. Et j'y passe une journée, deux journées. Et le troisième jour, le facteur sonne. Je vais lui ouvrir la porte et il m'amène un paquet. J'ouvre le paquet et à l'intérieur, il y a la traduction chinoise.
Ah ouais.
Et là, j'ai tout refermé en me disant, dans la vie, il faut faire confiance aux gens avec lesquels on travaille, parce que sinon, on perd un temps fou.
Pour terminer, avec mes invités, on aime bien, rhabiller les réseaux sociaux pour l'hiver ou pour l'été. Vous, j'ai l'impression que c'est pas non plus, vous n'êtes pas non plus opposé complètement à cet univers-là. Vous communiquez quand même beaucoup sur Internet. Je pense à un moyen d'échanger avec les lecteurs. Les réseaux sociaux, ça peut être un allié de la littérature et de la lecture.
En fait, le mot réseaux sociaux est un mot aussi vaste que quand vous parlez de la presse.
Oui.
Vous voyez, dans la presse de mon enfance, il y avait Le Monde, il y avait Minute.
C'est pas tout à fait. C'était pas tout à fait la même chose.
Et dans les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc, je suis extrêmement effrayé et étonné de la facilité avec laquelle les réseaux sociaux géants se sont emparés de nos données personnelles et de nos vies privées et les ont vendues. Par exemple, moi qui suis un passionné de la vie politique américaine, mais ça depuis mon enfance, pour moi, après le scandale de Cambridge Analytica, les dirigeants de Facebook auraient dû être condamnés au pénal. Parce que c'est un fait de manipulation des données personnelles à des fins politiques qui ont altéré la démocratie. Donc, ce qui m'effraie beaucoup plus avec les réseaux sociaux, ça n'est pas leur impact sur la lecture, c'est leur impact sur la démocratie. Et je pense que l'absence de régulation et l'inconscience et l'insouciance et probablement l'extraordinaire perversité de certains dirigeants de réseaux sociaux font courir un danger très très grave.
Vous avez utilisé les deux mots dans la même phrase, insouciance et perversité. J'allais dire, entre les deux, il y a de la marge. Et parfois, on ne sait pas trop. C'est vrai que quand on écoute parler Mark Zuckerberg, on a l'impression qu'il est presque naïf, qu'il ne s'est pas rendu compte de sa création.
Moi, je ne crois pas du tout à sa naïveté. Mais du tout. Moi, je fais partie de ceux qui lui en veulent énormément. Et je pense qu'un industriel qui aurait pollué la planète au degré auquel Zuckerberg a pollué la démocratie pourrait pas se contenter de dire « Pardon, je me suis pas rendu compte que j'avais versé des tonnes de millions, vous voyez, des tonnes d'hydrocarbures dans votre eau, dans l'eau que vous buvez tous les jours. Je me suis pas rendu compte que je vous avais empoisonné pendant des années. » Ça n'aurait pas suffi, vous voyez. Et je pense que la récente condamnation de Facebook a des dommages rien par rapport à l'argent que ces gens-là brassent. Donc, ce qui m'inquiète dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus le rôle extrêmement pervers qu'ils jouent sur nos démocraties et la façon dont les réseaux sociaux, en attisant les haines, en divisant, parce que leur modèle économique est basé sur la division, hein, pas sur la réunion. Donc la façon dont ils affectent nos vies et nos démocraties me préoccupe beaucoup plus que leur impact direct sur la lecture. Après, et c'est là que je vous disais, il ne faut pas faire d'amalgame, il y a des effets très positifs dans la juste utilisation de certains réseaux sociaux. Vous voyez, par exemple, alors il y a des paradoxes. Si on peut parler d'Instagram, bon, Instagram, je trouve que c'est à la fois un outil, c'est un outil d'image, hein, que je trouve en soi assez génial parce que Instagram nous permet de voir, de découvrir des paysages, des cultures, des images que l'on ne verrait pas autrement. Et en même temps, je n'arrive pas à comprendre que sur Instagram, un téton féminin soit censuré par l'intelligence artificielle, enfin par les logiciels d'Instagram en une demi-heure, mais qu'en revanche, une scène de barbarie ou un fusil ou une arme à feu ne fasse l'objet d'aucune censure.
Parce que j'ai testé pendant de nombreuses minutes.
Voilà, parce que statistiquement, ouais. je n'ai jamais lu, vous voyez, dans les brèves, que quelqu'un a été tué d'un coup de sein. Mais en revanche, d'un coup de feu, oui. Comment vous dire ? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire... D'abord, je ne suis pas un juge. Je n'ai pas non plus une intelligence qui me permette de porter des jugements sur tout. Je pense qu'il y a une urgence à apprendre à se servir des réseaux sociaux. Et il y a une urgence à ce que ceux qui les animent et ceux qui les créent soient aussi responsabilisés que... que n'importe quel dirigeant d'entreprise qui affecte une partie très importante du public.
Alors un des aspects sympas d'Instagram, hein, c'est le nombre de lecteurs qui partagent leur passion.
Oui.
Le hashtag Bookstagram, les gens ont fait du livre presque un objet de, peut-être pas de luxe, mais de quelque chose de beau qu'ils aiment
oui.
bien.
Mais moi, par exemple, sur mon compte Instagram, alors parce que vous parliez de l'usage, moi, quand on parle de l'usage des réseaux sociaux, moi, par exemple, je me sers des réseaux sociaux pour communiquer à distance, mais par exemple, ma vie privée n'est pas sur les réseaux sociaux. Je ne publie pas de photos de ma vie, de ma famille, parce que c'est le domaine de ma vie privée. Mais par exemple, j'adore partager. Parce que c'est quelque chose que j'aime, je chine les photos des belles bibliothèques.
Ouais,
que ça soit d'ailleurs des bibliothèques privées ou des bibliothèques improbables, où j'ai la chance de voyager. Mes bouquins sont traduits dans 49 pays, donc j'ai cette chance de voyager. J'adore poster des images de librairies, par exemple. On parlait des libraires, ouvrir des portes de librairies. Récemment, j'ai publié la photo d'une librairie en Argentine que je trouve magnifique. Bon, vous voyez, tout le monde ne rentrera pas dans cette librairie. Et j'adore, moi, suivre des comptes.
Où on découvre le même genre de choses.
Oui, où je découvre des choses. Moi, j'adore la bouffe, par exemple. Je suis très gourmand et j'adore ça. Et il y a des comptes Instagram de cuisiniers, par exemple. Je suis très, très fan de Michalak.
Ouais,
Et c'est magnifique.
C'est beau, en fait, ouais.
C'est beau. C'est d'abord ce qu'il fait
est
bon, mais surtout, c'est très, très beau. Et j'adore regarder les photos de pâtisserie que publie Christophe Michalak. Je trouve ça magnifique. Donc voilà, il y a tout ça pour dire qu'il y a un usage des réseaux sociaux
qui est très vertueux, très positif.
Qui est vertueux, qui est très joyeux, et il faut simplement être, il faut être vigilant par rapport à ce respect de la vie privée.
Ben, je vous invite à aller découvrir le compte Instagram des gens qui lisent sont plus heureux. Je viens de l'ouvrir, donc il y a encore quelques photos, quelques citations. On retrouve quelques-uns des podcasts. Il y aura sans doute un petit selfie qu'on fera tout à l'heure ensemble.
Oui.
Et puis, moi, je vous souhaite un bel été. Marc.
À vous aussi.
Merci beaucoup pour ce petit moment passé autour des livres.
Merci à vous.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à en parler et à le partager autour de vous. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram auquel je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite un bel été et de belles lectures.